bonsoir à tous. Je n'ai pas pu saluer tout le monde, mais voilà. Voilà, bienvenue à cette discussion. Merci d'être là. Cette réunion, elle rentre dans le cadre d'une tournée nationale que j'ai démarrée pour notre campagne aux européennes, parce que oui, Lutte ouvrière, même si on ne l'entend pas beaucoup dans les grands médias, présente bel et bien une liste aux européennes, hein, une liste intitulée « Contre le grand capital, le camp des travailleurs ». Et cette tournée, je la fais aussi avec Jean-Pierre Mercier, qui est en deuxième de liste, enfin, on porte ensemble en fait cette liste aux européennes. Alors ce que je propose, c'est d'abord lancer la discussion. Parce que je voudrais que ce soit une discussion, hein, donc laissez de la place à vos réactions, à vos préoccupations aussi. Hein, mais je vais faire une introduction pour revenir un petit peu sur notre politique et sur ce qu'on veut défendre dans ces élections européennes. Donc, ça peut paraître loin des élections européennes, mais je peux démarrer sur ce qui se passe en Algérie aujourd'hui. Vous verrez le lien. Hein. Mais ce qui se passe en Algérie, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui nous touche, parce que d'abord, ceux qui se révoltent, c'est nos sœurs, ce sont nos frères. Hein. On a des liens très importants, évidemment, avec l'Algérie, ce sont des travailleurs, hein, des travailleurs qui essayent de se faire respecter, hein, comme nous, on essaye de le faire aussi au travers des différents combats qu'on peut mener. Donc, pour nous, ce qui se passe, c'est quelque chose de très important. D'abord, les mobilisations, vous avez vu, c'est des mobilisations quand même très massives. Hein, ça se chiffre sur plutôt 1 million, on croit les chiffres annoncés hier. C'est une mobilisation massive. Et nous, ce que nous pensons, c'est qu'à chaque fois que les peuples se révoltent, il y a des perspectives qui s'ouvrent. Alors, je tiens aussi à, d'abord, avant de dire tout de suite l'admiration qu'on peut ressentir hein, dans ce combat-là, parce que quand même, oser hein, descendre dans la rue avec un pouvoir quand même, comme le régime algérien, y compris avec la pression qui s'est exercée sur eux, hein, selon laquelle c'était Bouteflika ou le chaos, hein, et que donc il ne fallait sûrement pas qu'ils se soulèvent parce qu'ils couraient tout droit à une nouvelle guerre civile, etc. Bon, ben, ils ont eu ce courage-là et on ne peut que le saluer. Maintenant, nous, ce qu'on sait aussi, c'est toute la difficulté hein, de la lutte. Parce que oui, il y a des perspectives du coup qui s'ouvrent à partir de ces mobilisations. Mais on sait qu'il ne suffit pas de descendre par millions dans les rues pour avancer, pour faire avancer notre sort et nos conditions de vie. On l'a vu déjà avec ce qui s'est passé en Tunisie, en Libye, en Syrie. On a vu qu'il y avait aussi des impasses, parfois, hein, et que c'était compliqué. Alors, toute la question qui se pose, en tout cas pour nous, hein, c'est est-ce que comment les travailleurs vont-ils intervenir politiquement dans cette mobilisation? Parce que c'est évident qu'ils sont très nombreux, qu'ils constituent le gros des groupes, hein, y compris ceux qui sont au chômage, ceux qui sont en activité, cette jeunesse qui est une jeunesse populaire. Hein, est-ce qu'ils vont intervenir aussi en mettant en avant leurs revendications, leurs objectifs de travailleurs, de salariés qui sont... on mesure le recul de nos conditions de vie, on mesure la dégradation de notre pouvoir d'achat, comment les fins de mois elles sont difficiles, mais là-bas, vous savez que le salaire minimum c'est 130 euros, hein, il y a une inflation galopante, les prix c'est pas plus de 2 ou 3%, c'est une inflation galopante, et puis c'est des millions de familles qui sont pas à sec au 10 ou au 15 du mois, mais c'est des millions de familles qui n'ont pas d'entrée d'argent tout court. Hein, c'est ça. Donc, bien sûr, est-ce que ces revendications-là, ils réussiront à les traduire en objectifs politiques, en revendications politiques dans ces mobilisations? C'est les questions qu'on pose. Si ces mobilisations s'arrêtent à, vous savez, au mot d'ordre actuel, non au cinquième mandat de Bouteflika, et si finalement ils se satisfont de remplaçant à Bouteflika qui sont en mesure de parler, mais pour mener la même politique, ça ne changera pas le sort et ça ne fera pas avancer évidemment la condition des travailleurs en Algérie. Alors voilà, tout l'enjeu dans ce genre de mobilisation, on le mesure, ben c'est la conscience avec laquelle on se bat. C'est la conscience politique avec laquelle on se bat. Et pour les travailleurs, ben c'est la conscience, leur conscience de classe, en fait. Et nous, on sait que les luttes, elles sont toujours très difficiles pour les opprimés. Se battre et avancer, inverser le rapport de force, c'est toujours quelque chose de très difficile. Mais ça l'est toujours, ça l'est bien plus encore quand les travailleurs ne sont pas préparés, quand justement ils n'ont pas réfléchi politiquement à la situation, à leurs intérêts. Et c'est d'autant plus difficile quand il n'y a pas de parti qui porte leurs revendications et qui porte leurs intérêts. J'ai commencé en parlant de ce qui se passe en Algérie, mais en réalité ce que j'ai en tête aussi, c'est ce qui se passe avec le mouvement des Gilets jaunes. Parce qu'au bout du compte, c'est les mêmes questions qui se posent. C'est les mêmes questions et c'est les mêmes difficultés. Parce que dans ce mouvement des Gilets jaunes, la majorité des femmes et des hommes qui sont mobilisés, eh bien c'est le monde du travail. C'est des femmes et des hommes qui sont au chômage parfois, ou qui travaillent dans des petites entreprises, ou qui galèrent avec quelques heures de boulot, qui sont retraités aussi, mais c'est majoritairement des salariés, la classe ouvrière, il y a aussi des indépendants, il y a aussi des petits patrons, il y a aussi des entrepreneurs un petit peu, enfin le gros quand même, c'est la classe ouvrière. Et ce qu'on voit dans cette mobilisation qui maintenant en est au quatrième, plus de 4 mois hein, que ça dure, eh bien c'est que les problèmes qui ont été soulevés et qui ont été mis sur le tapis sont bien sûr les problèmes essentiels. C'est le problème du pouvoir d'achat, hein, c'est le problème du pouvoir d'achat, c'est le problème de la justice sociale, hein, c'est des problèmes bien sûr très importants, mais avec comment ont-ils été traduits en termes de revendications, en termes d'objectifs de lutte? Eh bien, finalement, ça a été traduit par pour le rétablissement de l'ISF, ce qui est déjà un petit pas en avant sur un peu plus de justice sociale, j'ai envie de dire, enfin, c'est un tout petit pas. Hein. À côté de ça, ce qu'on entend, c'est des revendications comme par exemple à bas Macron, hein, Macron démission, voilà, bon, mais on peut s'interroger quand même sur l'efficacité d'une telle revendication. On peut quand même s'interroger parce que Macron, il peut être remplacé et il le sera. Hein. Macron, il finira par être remplacé, vous savez, de toute façon, par un autre. Hein, et il fera quelle politique ? Est-ce qu'il fera une politique si différente que ça ? Point d'interrogation, c'est soumis à la discussion. Nous, on pense que on peut changer de président de la République, mais d'ailleurs, on en a un certain nombre déjà hein, au compteur. Finalement, ils ont tous mené la même politique anti-ouvrière. Hein, gauche, droite, alors lui, il dit ni gauche ni droite, mais enfin, on a droit quand même à la même politique hein, anti-ouvrière contre les travailleurs et favorable, bien sûr, aux plus riches. Et puis l'autre revendication, celle du RIC, hein, c'est une revendication qui sort, qui est mise en avant, mais là encore, hein, quelle efficacité ! La réalité, c'est que le mouvement des Gilets jaunes, il s'est fait respecter et il a secoué un petit peu, Macron aussi, parce qu'il se mobilisait, parce que justement, il se montrait, il revendiquait, parce que il se battait dans la rue, sur les ronds-points, dans les manifestations. Et c'est ça la force du mouvement des Gilets jaunes. Quand on retourne aux urnes, hein, eh bien, est-ce que les travailleurs peuvent véritablement faire entendre leurs intérêts ? Nous, on ne le pense pas. Nous, on ne pense pas que ça soit du tout une issue. Ça aussi, on pourra en rediscuter. En tout cas, ce qui est frappant, c'est que dans les revendications qui ont été mises en avant et qui sont mises en avant aujourd'hui dans le cadre de ce mouvement des Gilets jaunes, il n'y en a aucune qui mette en cause les profits des capitalistes. Il n'y en a aucune qui mette en cause la nécessité de contester les grands groupes industriels et financiers. Pourtant, si on parle de pouvoir d'achat et si on parle de justice sociale, c'est quand même bien vers eux qu'il faut se tourner aussi. Parce que quand même aujourd'hui, ce qui se passe dans les entreprises, y compris quand on voit toutes ces entreprises qui continuent de fermer, ces grands groupes, Ford, Ascoval, les fonderies du Poitou qui sont menacées, bon, c'est pas Macron qui les ferme. C'est pas Macron qui les ferme. Alors il fait rien, il faut l'empêcher. D'accord. Mais en fait, c'est pas Macron qui choisit de les fermer. C'est quand même le grand patronat. C'est quand même le grand patronat. Et pourquoi? Eh bien, pour ses profits, pour continuer de prospérer. Voilà. Et y compris la justice sociale. Hein. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a une minorité, une poignée de parasites qui s'enrichissent sur le dos de la grande majorité, sur le dos des travailleurs. En réalité, la richesse, le capitalisme, c'est une espèce de grande fabrique à inégalité. Il les produit, les inégalités, parce que c'est un système qui est basé sur l'exploitation. Et la richesse des autres, elle se fait sur les bas salaires des autres. Elle se fait sur l'augmentation des cadences, sur l'aggravation des conditions de travail, sur le recul de nos conditions de vie. C'est ça la réalité. Donc, voilà ce qui, comment finalement ces problèmes mis en avant, eh bien, peuvent trouver un début de solution. C'est en s'attaquant effectivement au profit et au pouvoir de la classe capitaliste. Alors ça, c'est pas une conscience qui s'est clairement exprimée dans le mouvement des Gilets jaunes. Hein, c'est pas des revendications qui sont portées aujourd'hui largement par ce mouvement. Hein. On ne reproche pas, on ne leur reproche pas. Hein. C'est vrai que ces femmes et ces hommes qui ont pris le gilet jaune, eh ben, ils se battent avec les armes qu'ils ont trouvées. Hein, quand on est à la retraite, quand on n'est plus dans une entreprise, quand on bat contre qui on se bat? Bah oui, on se bat avec ses moyens, sur les ronds-points, dans les manifestations, et puis on met en cause Macron, le président de la République. Bon, ça, on ne le reproche pas. Mais nous, ce qu'on sait, c'est que si on ne s'attaque pas à la classe capitaliste, on n'avancera pas dans cette volonté de qu'il y ait moins d'injustice sociale, notre droit à l'existence. Voilà, on n'avancera pas. Alors, tout ça pour dire que nous, ce qui se passe en ce moment, ces mouvements-là, ils nous confortent dans notre choix fondamental de miser sur la classe ouvrière, sur le camp des travailleurs, pour changer la situation, pour changer les choses. Parce qu'on pense effectivement que les travailleurs, hein, ils sont au cœur même, les salariés, ils sont au cœur même de la bête capitaliste, ils sont au cœur même de ces forteresses, de ces bastions capitalistes que sont les grandes entreprises de l'automobile, de la distribution, ces groupes financiers. C'est eux qui sont au cœur, c'est eux qui fabriquent les richesses, c'est eux qui font tourner ces entreprises, c'est même eux qui fabriquent les capitaux qui à un moment donné sont finalement accaparés par une minorité, hein. C'est les travailleurs qui les produisent et ça leur donne un levier effectivement pour se battre contre cette classe capitaliste, un levier que l'autre catégorie sociale qui peuvent être aussi victimes de ce système, hein, et puis enragées par la situation, mais ceux qui ont les armes finalement pour véritablement s'attaquer à ceux qui ont le pouvoir dans notre société, eh bien ce sont les travailleurs. Alors nous, notre politique, eh bien de faire ce choix-là, ce choix de cette classe, même si on s'appelle d'ailleurs lutte ouvrière, hein, et c'est de défendre une politique et un programme qui aide justement les travailleurs à défendre leurs intérêts. C'est populariser un programme et des objectifs qui serviront dans les luttes que les travailleurs pourront mener, qui permettront aux travailleurs de se repérer dans la situation et de défendre véritablement une politique qui corresponde à leurs intérêts. Alors, ce programme et cette politique, c'est ce qu'on va défendre dans les élections européennes. Et on va revenir point par point sur, justement, des revendications que nous pensons devoir populariser, mettre dans la tête des travailleurs. Je prends par exemple cette question qui a été posée sur le pouvoir d'achat. C'est une question bien sûr fondamentale, qui touche tout le monde aujourd'hui dans la société. Et cette question, c'est vrai qu'elle dépend en partie des impôts. C'est vrai. C'est vrai que si on paye plus de taxes, ça nous fait moins de pouvoir d'achat. Ok. Mais quand même, le pouvoir d'achat, c'est d'abord son salaire, sa pension de retraite, éventuellement ses allocations, et puis c'est la question des prix. Et qui est-ce qui fixe son salaire? Qui est-ce qui détermine finalement la retraite à laquelle on va avoir droit? En fait, c'est le patronat. C'est le patronat qui fixe. C'est le patronat aussi, et c'est le grand patronat qui fixe les prix. Donc, nous, on pense que si on veut effectivement sauvegarder notre pouvoir d'achat, si on veut arrêter cette dégringolade, eh ben, il faut qu'on s'adresse au grand patronat, que clairement on mette en avant la nécessité d'augmenter les salaires, augmentation des salaires et indexation des salaires sur les prix. Parce que évidemment, on peut augmenter les salaires de 5 ou de 10% au travers d'une lutte, okay, mais si les prix augmentent de 5 ou de 10%, le résultat, il est nul. Hein. Donc, augmentation des salaires et indexation sur les prix. Augmentation des salaires et des pensions de retraite. Pour moi, ça forme une première revendication que nous, on veut absolument populariser. Hein, parce que, justement, si les travailleurs descendent dans la rue en masse, bien plus massivement que ce qui est fait aujourd'hui, réfléchir l'autre, eh bien, il faut absolument qu'ils aillent dans cette direction-là. Hein, sinon, c'est un coup d'épée dans l'eau. Et puis l'autre revendication qui nous paraît aussi essentielle et qui est liée aussi au pouvoir d'achat, c'est la question de l'emploi, d'un travail, un travail pour tous. Hein, notre droit à l'existence commence quand même par ça. Aujourd'hui, il y a 6 millions de femmes et d'hommes qui n'ont même pas le droit de gagner leur vie en travaillant dans cette société. Ben, il faut commencer par ça, par imposer que chacun ait accès effectivement à un emploi. Et ça signifie forcément qu'on arrête cette hémorragie de suppression d'emplois, de fermeture d'usines, ça c'est un fait. Mais ça ne suffira pas à résorber les 6 millions de chômeurs. Hein, pour résorber ce chômage, il faut forcément faire de la place pour des jeunes, pour tous ceux qui sont au chômage. Ça veut dire qu'on répartisse le travail. Mais nous pensons, nous, qu'une société organisée, que le bon sens collectif, eh ben, il doit conduire à ça. On répartit le travail qu'il y a à faire dans cette société entre tous. Au lieu de concentrer le travail sur ceux qui ont la chance, entre guillemets, hein, d'avoir un boulot, enfin, je dis entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, la chance d'avoir un boulot, ça se transforme souvent en enfer. Hein, vu les conditions de travail, justement. Vu qu'aujourd'hui, on nous demande de faire le travail de 2, 3, les cadences et la charge de travail, c'est de la folie. Il y a une pression à la compétitivité permanente, et ça, c'est vrai qu'on travaille dans le privé, dans le public. Mais voilà la situation de la classe ouvrière. Ceux qui sont au boulot et qui sont pressés comme des citrons, hein, qui plient sous le poids de la charge, avec des horaires délirants, une flexibilité à toi, bon, et puis il y a les autres. Alors les autres qui sont condamnés, eux, à l'inactivité et à la marginalisation et à même pas avoir le droit de vivre. Donc voilà la situation. Alors nous, on pense que cette revendication élémentaire, celle qu'on doit partager tous et mettre en avant, c'est ça. Et le monde du travail en serait effectivement bien renforcé. Alors évidemment, tout ça, ça nécessite de prendre de l'argent, et ça coûte évidemment de l'argent, hein, voilà, mais... s'adresser à ceux qui aujourd'hui le concentrent, qui le confisquent, hein, c'est-à-dire ce grand patronat qui a l'argent. Qui a l'argent, ça veut dire de revendiquer, de prendre sur les profits. Hein, et pour nous, évidemment, c'est la question d'un combat, il faut mener ce combat. Dans ce combat, on a besoin, je pense, d'une autre revendication et d'un autre objectif, c'est aussi le droit de contrôler l'argent qu'il y a dans ces grands groupes. Parce que, justement, hein, quand on dit qu'il faut embaucher ou qu'il faut augmenter les salaires, immédiatement, on nous répond, il n'y a pas d'argent. Vous allez nous faire mettre la clé sous la porte, ça va être la faillite, etc. On pourra la catastrophe, vous êtes des fous, enfin voilà. Ça, je pense que tout le monde l'a vécu, hein, ce chantage-là. Hein, eh bien, on demande à voir. Il n'y a pas d'argent. Eh bien, regardons. Hein, mettons nos nez dans les comptes de ces grands groupes. Où va l'argent? Vous voyez, on le sait où va l'argent, puisque régulièrement, on nous explique qu'il y a toujours plus de millionnaires, toujours plus de milliardaires, et que ces gens sont plus riches. Hein. Mais entre nos vies, à nous, hein, et ce qu'on nous sert tous les jours, et puis ces statistiques régulièrement, ben, c'est vrai qu'il y a un gouffre. Eh bien, justement, nous, on a besoin de savoir précisément tout ça. Ça me fait penser aussi que le mouvement des Gilets jaunes, il a mis en avant une revendication qui était un peu, en tout cas, dont on peut s'inspirer. C'est celle de dire, il faut qu'on contrôle l'argent de l'État. Il faut qu'on contrôle où vont nos impôts. Il faut qu'on contrôle comment l'État utilise cet argent-là. C'est une revendication qui est légitime et qui est tout à fait nécessaire. Mais je pense qu'il faut l'étendre, cette revendication. revendications, justement aux grands groupes. Hein, parce que dans ces grands groupes, on y passe nos vies, on y donne le meilleur de nous, nos compétences, on y donne finalement, en y laissant toutes ces heures de travail, on paye en quelque sorte notre impôt en nature dans ces entreprises. Et ben, on est en droit aussi de savoir où va l'argent, où va le produit là, de tout ce qu'on a, les richesses, de tout ce qu'on. Voilà, où est-ce que ça part? Hein, tout ce travail qu'on réalise. Bon, à la fin des fins, ils nous expliquent toujours qu'ils n'ont même pas de quoi augmenter les salaires, et ben même pas de quoi embaucher. Bon, et ben alors qu'on regarde le contrôle sur ces grands groupes, sur ces grandes fortunes bourgeoises. Comment se fait-il qu'un gars comme Bernard Arnault, en un an, il a augmenté son patrimoine de 20 milliards. En un an, 20 milliards de plus. Alors, ça nous échappe complètement, ces sommes, ça ne représente rien pour nous. Mais quand même, on se dit bien qu'il y a quelque part là, il y a du vol, hein. Bon, et bien, voilà, pour nous, trois revendications, trois objectifs qu'on veut absolument populariser, qu'on veut semer dans les consciences ouvrières, l'augmentation des salaires et leur indexation sur les prix, répartition du travail entre tous et contrôle sur les comptes des entreprises, parce qu'on pense que, encore une fois, les luttes, y compris, elles sont là. Il y en a plein des luttes, justement. Hein, en tout cas, le mouvement des Gilets jaunes, c'est un début. On pense que c'est un début, et ça peut en venir. Et il faut que dans ces luttes, les travailleurs, eh ben, ils sachent où est leur intérêt, qu'ils y réfléchissent, qu'ils s'y préparent à l'avance politiquement. Et nous, on pense que ça, c'est notre boulot. C'est un boulot, c'est, en tout cas, c'est le boulot que nous, on peut faire. Et qu'on pense qu'un parti représentant les intérêts des travailleurs doit faire préparer les travailleurs à ça, à ce combat-là. Parce que, on voit bien dans le mouvement des Gilets jaunes, il y a un tas d'intérêts qui se télescopent. Il y a un tas de gens qui ont des idées à proposer, qui mettent sur la table, etc., etc. Moi, je l'ai dit, le RIC, on pourra en discuter. Macron démission, enfin bon, il y a un tas de revendications. Hein. Bon, bah, faire ménage dans tout ça, lesquelles peuvent faire avancer notre sort, voilà les questions auxquelles on peut réfléchir. Et auxquelles il faut réfléchir, y compris avant. Hein, donc c'est pour ça que nous, on se bat pour que les travailleurs aient une politique, pour qu'ils se donnent un parti qui correspond à leurs intérêts fondamentaux. Et ces intérêts fondamentaux, c'est pas seulement de dire bah, « il faut se lutter pour améliorer notre pouvoir d'achat ». Nous, on pense que c'est ça, bien sûr que ce sera le début du combat, et bien sûr que c'est ça qui nous poussera dans la mobilisation et dans la grève, dans les mobilisations de masse. Mais nous, on pense que l'aboutissement de ce combat, eh bien, il faut que ce soit le renversement de la classe capitaliste. Nous, on pense qu'en réalité, si on ne conteste pas le pouvoir, si on n'exproprie pas ces grands actionnaires des grands groupes, eh bien, le combat, même si on le mène, si on l'arrête, eh bien, il sera sans cesse à recommencer, sans cesse remis en cause. Et on continuera de courir à la catastrophe. Parce que, certes, dans certaines luttes sociales massives, on peut obtenir des avancées, mais s'ils restent au pouvoir, ces gens-là, la catastrophe, elle continue. La catastrophe, elle continue, et là, ce qu'on peut dire, c'est que cette classe capitaliste, elle nous mène à la catastrophe. Et je voudrais quand même insister là-dessus, elle mène à la catastrophe économique, parce qu'en réalité, on est dans la crise, et on ne s'en sort pas, et nous, on pense que le capitalisme, il ne sortira pas de la crise. Parce qu'en fait, les marchés aujourd'hui sont saturés. Hein, le capitalisme, il a investi toute la planète. Il a finalement développé toutes ses capacités. Hein, à moins de découvrir une nouvelle planète avec des consommateurs solvables, ils ne peuvent pas développer leur production. Hein, et c'est pour ça que tous les jours, ils nous expliquent « Oh, il faut dérouler le tapis rouge aux investisseurs ». Mais ils sont où les investisseurs? Il n'y en a plus d'investisseurs. Ils sont même pas capables, ces gens-là, d'aller reprendre des entreprises comme Ford ou comme Ascoval qui pourraient fabriquer des choses utiles à la société. Ils sont même pas capables. Ça les intéresse pas, parce que le taux de profit attendu, il est pas... Ça les intéresse pas, parce qu'en réalité, les marchés sont saturés, parce que c'est la guerre économique entre eux, parce que c'est la guerre commerciale, et ils savent que de toute façon, voilà, la part qui peut leur revenir, elle sera... voilà. Hein, donc c'est là qu'on est confronté à une crise. Et cette crise, elle a aussi, elle se voit dans la place qui a été prise par la finance. Hein, parce que l'argent qu'ils ne veulent plus investir dans la production, eh bien c'est lui qui alimente ces fameuses bulles spéculatives. qui menace de nous péter à la figure d'un jour à l'autre. Et ça, c'est pas que nous, les ouvrières, qui le disons, il faut que les experts économiques nous expliquent qu'à nouveau, on est parti dans une course folle, comme celle qui a précédé le krach de 2008, et qu'ils ne contrôlent rien de tout ça, et que ça peut nous péter à la figure avec les conséquences qu'on connaît sur nos vies. Donc, ils nous mènent à la catastrophe économique, et puis bah, on peut décliner ça, parce que cette catastrophe économique, regardez, ce que ça nous conduit politiquement et moralement aussi à un recul très, 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 très grave. Très grave. Regardez comment sont traités aujourd'hui les migrants, avec ces milliers de morts dans la Méditerranée, où on leur claque la porte au nez. Alors, ils peuvent plus vivre chez eux, mais il faudrait les enfermer dans leur, dans leur prison. On en est là. Alors même que la fortune, ne serait-ce que de 1 milliardaire en France, permettrait évidemment d'accueillir, de loger, et sans compter qu'en plus, c'est des travailleurs. Ils veulent venir pour se remonter les manches et pour travailler. Tout ce que les sociétés, elles ont, pas que la France, d'ailleurs, c'est pas que le propre à la France, c'est de leur claquer la porte au nez et leur dire « revenez là où vous êtes ». C'est ça la situation. Alors, c'est effectivement aussi une déchéance morale. Ils nous poussent là-dedans. Et puis, la catastrophe, elle est aussi écologique. Ça, on n'est pas les seuls à le dire. Tout le monde le dit. C'est, d'ailleurs, tout le monde décrit la catastrophe écologique. Ok, d'accord. Au passage, on a toujours un petit coup de morale. On nous fait la morale en disant il faut que chacun fasse un petit geste. Mais ceux qui ont le pouvoir, ceux qui orientent toute la vie économique, qui prennent les décisions, qui engagent, en fait, la planète, qui pollue, les grands groupes, ils continuent de gérer leur business avec uniquement le profit. Et c'est toujours la même ligne de conduite. C'est après moi le déluge. C'est ça leur façon de raisonner à tous ces grands groupes. On pourrait parler aussi des trusts pharmaceutiques, qui, soi-disant, sont là pour soigner, etc., pour répondre à nos besoins, etc., qui décident d'arrêter un certain nombre de fabrications de médicaments parce que, ça ne leur apporte pas assez. Donc, on est quand même confronté à une classe capitaliste qui domine, qui prend des choix fondamentaux, qui engagent la société, qui engagent la planète, et qui sont faits, qui sont contraires, aux intérêts de tout un chacun, et en fait, ils sont contraires même à la survie de la société et de l'humanité. Donc, nous pensons qu'effectivement, le problème, c'est si ce système est bloqué comme on le voit, à la fois avec ce pognon incroyable à un pôle qui dégouline ces milliards là qui... Et puis de l'autre côté où on nous explique que SAMU ne peut pas créer un poste de plus, que les urgences hospitalières ne peuvent pas faire mieux, que l'éducation, c'est... Bon, ce blocage là qu'on voit sur tous les... Quelles que soient les directions où on regarde, et bien ce blocage il s'explique par cet obstacle là. Que ceux qui tiennent les manettes, ceux qui ont les capitaux, ceux qui ont les possibilités dans cette société, eh bien, ils les confisquent à leur propre, pour leur propre intérêt. Et nous, on pense que les travailleurs, eh bien, dans leur combat, il faudra qu'ils accèdent à cette conscience-là aussi et qu'ils mènent leur combat avec cette conscience qu'ils sont capables, finalement, eux-mêmes, de prendre les rênes de ces grands groupes, de prendre les rênes de l'économie, de prendre les rênes politiques, qui sont légitimes à le faire, parce qu'ils font tourner toute la société, et puis qu'ils sont capables de le faire, précisément, parce que la société repose sur eux. Alors nous, aujourd'hui, en tant que travailleurs, on fait tourner toute la société pour une minorité de gens, on doit pouvoir la faire fonctionner au profit de tous, en fonction des intérêts de tous. Donc voilà ces perspectives-là qu'on porte, que les travailleurs mènent leur combat, défendent leurs intérêts contre le grand patronat, avec cette conscience qu'il faut qu'ils aillent jusqu'au bout, quand ils se battront, il faudra qu'ils aient cette volonté-là, d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au renversement de la classe capitaliste. Et ce choix qu'on fait, c'est pas seulement parce que les travailleurs ils sont capables de se battre, mais c'est parce qu'on pense, encore une fois, que les travailleurs ils portent cette société en eux, qu'ils sont capables de remplacer, ils sont capables d'offrir à la société un autre type d'économie, un autre type de société qui ne soit pas basée justement sur l'exploitation. et sur les classes sociales. Donc voilà nos convictions fondamentales, et c'est celle-là qu'on défendra aux élections européennes. Hein. Même si aujourd'hui, je dis deux mots pour finir sur les élections européennes, même si dans le débat de ces élections européennes, que ce soit Macron d'un côté, que ce soit Le Pen de l'autre, ils voudront discuter de tout, sauf justement des revendications sociales du monde du travail, celles qui ont été mises sur la table par les Gilets jaunes, ben nous, on concentrera notre campagne là-dessus, hein, sur cette politique qu'on propose aux travailleurs, sur ce programme qu'on veut populariser, et cette conscience d'avoir à prendre le pouvoir. Et juste deux mots sur la façon dont cette campagne elle s'enclenche. Je ne sais pas si vous avez vu ou entendu sans doute parler quand même de la lettre que Macron a écrite aux Européens dans cette campagne. Bon, c'est une lettre dans laquelle Macron vise clairement ceux qu'ils appellent à l'extrême droite, les populistes, ils appellent les populistes, les souverainistes, les nationalistes, s'opposent dans sa lettre à eux. Bon. Mais ils s'opposent à eux finalement en allant sur leur terrain. Parce que toute sa lettre, c'est de dire il faut se protéger. Il faut qu'on se protège. Et il faut qu'on se protège de qui? Eh bien, il faut qu'on se protège des migrants. Quand vous lisez bien la lettre, il faut qu'on se protège des migrants. Et il faut qu'on se protège de la concurrence étrangère. Comme Le Pen. Seule différence, c'est que Le Pen pense le faire à l'échelle nationale, en fermant les frontières du pays, et Macron lui propose de le faire à l'échelle européenne, en fermant les frontières de l'Europe. Le Pen propose une préférence nationale, Macron propose une préférence européenne. Mais c'est la même logique, exactement la même logique. Et nous, ce qu'on pense, c'est que les travailleurs, ils se protègent ou pas, s'ils ne savent pas contre qui ils doivent se protéger, s'ils se trompent de responsables, s'ils se trompent d'ennemis, s'ils ne mettent pas en cause, justement, cette classe capitaliste. Rajouter des frontières, est-ce que c'est ça qui va faire qu'il y aura des emplois créés en France? Est-ce que c'est ça qui va faire que Carrefour payera mieux ses caissières, en embauchera de nouvelles? Est-ce que... Non. Et les frontières, elles n'ont jamais arrêté la rapacité. Elles n'ont jamais arrêté l'exploitation des frontières. Jamais. Donc, c'est sûrement pas une solution. Encore une fois, nous, on se battra pour que dans cette campagne, les travailleurs, ils ne se laissent pas détourner, ils ne se laissent pas intoxiquer par les démagogues, ils ne se laissent pas berner par les boucs émissaires qu'on va leur agiter devant la figure. Voilà. Mais qu'ils sachent qu'on fera tout pour défendre leurs intérêts. Et leurs intérêts, ben c'est d'abord et avant tout de ne pas se diviser. De ne pas se diviser entre travailleurs. Et la classe ouvrière, elle est internationale. Elle a des origines multiples, la classe ouvrière de France. Elle a des origines multiples, elle est de elle a des religions différentes, parfois pas de religion aussi, alors je fais partie de voilà, des couleurs de peau multiples, il ne faut pas qu'elle se laisse diviser. Donc on fera aussi entendre, justement, notre internationalisme dans cette campagne européenne, et on sera pour défendre tout qui permettra, dans le cadre de ce système capitaliste, tout qui permettra de renforcer les liens entre les travailleurs, y compris entre les travailleurs d'Europe, parce que c'est ça forcément la force des travailleurs. Voilà, j'arrête mon introduction. J'ai pas tout dit, mais... Alors...